Bonjour à tous, donc bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence à distance de l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors nous devions faire cette conférence depuis notre amphithéâtre et puis nous sommes en reconfinement, donc de nouveau nous refaisons ces conférences tout le monde à distance. Donc il n'y a personne dans notre amphithéâtre. Hein. Donc c'est Jean Mouette qui s'occupe de la technique. Alors Jean, tu nous reçois bien, tout se passe bien?
Oui, on est opérationnel depuis mon bureau de l'IAP.
Parfait. Bon, moi, en fait, pour tout vous dire, je suis à l'Observatoire d'Haute-Provence. Il y a quand même quelques endroits où on peut faire un tout petit peu de travail en présentiel de temps en temps. Pour l'instant, le ciel est couvert, donc il n'y a pas d'observation. Mais ça devrait observer ce soir l'Observatoire d'Haute-Provence. Et donc, cette conférence va se faire à distance avec Alexandre Letiec. Alexandre, tu confirmes que tu nous reçois bien toi aussi?
Oui, je vous reçois bien.
Parfait. Donc, pendant toute la conférence sur le chat sur YouTube, vous pourrez laisser vos commentaires, éventuellement poser des questions. Peut-être j'en poserai quelques questions en cours de route à Alexandre, mais sinon je poserai ces questions à la fin. On aura un temps de discussion avec Alexandre. Et donc le programme, donc le mois prochain, le 1er décembre, nous recevons Rosine Lallement à 19h30 toujours qui nous parlera du livre interstellaire. Le 5 janvier, nous recevrons Sylvie Cabri qui nous parlera de formation stellaire. Alors les temps sont compliqués, il y a beaucoup d'imprévus souvent dans la programmation. Donc, n'hésitez pas à vérifier ce programme-là sur notre site internet quelques jours avant pour être bien sûr qu'on respectera bien notre programmation et nos horaires. On espère aussi pouvoir bientôt recevoir de nouveau quelques personnes et bientôt notre amphithéâtre complet rempli de public. Mais donc, pour l'instant, vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Donc, on continue ces conférences à distance. Donc, aujourd'hui, avec Alexandre Letiec. Donc, Alexandre, il est chargé de recherche au CNRS. Il travaille au laboratoire de l'univers et de ses théories de Lütte à l'Observatoire de Paris. Ses sujets d'études portent sur la relativité générale et puis des applications à différents cas, les trous noirs, les étoiles à neutrons, les ondes gravitationnelles. Il travaille également sur la matière noire, l'énergie noire. Alors son parcours, Alexandre, on connaît bien parce qu'il a préparé sa thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris il y a quelques années déjà. Après, il est parti travailler à l'Université de Maryland aux États-Unis et puis il est revenu comme chercheur donc, au CNRS à l'Observatoire de Paris. Il continue ses travaux en menant notamment beaucoup de séjours à l'étranger. Il travaille beaucoup au Brésil, au Japon, aux États-Unis toujours. En plus de ses travaux de recherche, Alexandre mène des activités d'enseignement, dans l'enseignement supérieur, beaucoup d'activités de vulgarisation aussi, comme ce soir. Et pour l'ensemble de ses travaux, Alexandre a reçu plusieurs prix et distinctions, et notamment la médaille de bronze du CNRS, qui est une médaille, un prix prestigieux du CNRS qui met en lumière, qui récompense les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses. Et donc ce soir, Alexandre va nous parler d'astronomie gravitationnelle en nous donnant les dernières nouvelles des vibrations de l'espace-temps. Donc je t'en prie, Alexandre, à toi.
Merci Guillaume, merci pour l'introduction et surtout merci pour l'invitation. Je suis heureux ce soir, même si c'est à distance, de vous donner les dernières nouvelles effectivement des vibrations de l'espace-temps et ce qui est en fait une nouvelle forme d'astronomie, hein, l'astronomie gravitationnelle, qui comme on va le voir est tout à fait complémentaire de l'astronomie, on va dire, traditionnelle à l'aide de lumière visible. Parce qu'en effet, pendant des siècles, hein, voire on pourrait dire pendant des millénaires, la lumière a été notre seule source d'information sur le cosmos. Hein. Jusque récemment, toutes nos découvertes, hein, toutes les connaissances que nous avons acquises sur l'univers ont été le fruit d'observations effectuées à l'aide de lumière visible, hein, mais aussi à l'aide d'autres types d'ondes dites électromagnétiques, hein, comme par exemple les ondes radio, infrarouges, ultraviolets, ou encore les rayons X et les rayons gamma, que ce soit sur le sol, hein, ou bien à l'aide d'observatoires spatiaux. Mais récemment, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, le 14 septembre 2015 pour être précis, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, eh bien, nous sommes parvenus à observer un événement invisible, un cataclysme qui n'a émis absolument aucune lumière et qui a eu lieu il y a un peu plus d'un milliard d'années dans une galaxie très lointaine, hein, à une époque où en fait sur Terre, la vie se résumait essentiellement à des organismes unicellulaires. Nous avons en fait été les témoins du spiralement puis de la fusion de deux trous noirs, chacun d'entre eux pesant autant que à peu près 30 fois notre astre, hein, le Soleil. Alors comment est-ce que c'est possible de voir un événement invisible? Eh bien précisément grâce aux ondes gravitationnelles, hein, des ondes dont l'existence a été prédite il y a déjà un peu plus d'un siècle par Albert Einstein, qui
Alexandre,
prouvait.
excuse-moi.
Oui.
Là, on parle entre nous parce que je ne sais pas pourquoi le direct sur YouTube s'est arrêté. Enfin, c'est pas qu'il s'est arrêté, mais il n'y a plus rien qui soit transmis. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de réseau à l'IAP, mais je vais essayer de faire quelque chose et je te
En
tiens
effet,
au
on
courant.
confirme que ça marche plus. Ouais.
D'accord.
C'est parti. Donc, juge, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour cette interruption. Si tout va bien, on a réussi à résoudre le problème. Et donc, on repart. Donc, Alexandre, désolé, et les spectateurs, désolé pour cette interruption. Alexandre, tu peux repartir. Donc, je pense que ça avait coupé assez rapidement après que tu aies pris la parole. Je t'en prie.
D'accord. Bon, bah, désolé à du direct. Donc, je vais reprendre donc au moment où je vous parlais du fait qu'il y a un peu plus de 5 ans, hein, le 14 septembre 2015, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes parvenus à observer un événement invisible, un cataclysme hein, qui n'a émis aucune lumière et qui a eu lieu il y a un peu plus d'un milliard d'années, à une époque donc où je disais où la vie sur Terre se résumait essentiellement à de la vie unicellulaire. Donc un événement qui a eu lieu dans une galaxie extrêmement lointaine. Ce que nous avons été témoins, c'est en fait du spiralement, puis de la fusion de deux trous noirs, chacun de ces trous noirs pesant à peu près 30 fois la masse de notre astre, le Soleil. Donc la question qu'on peut naturellement se poser, c'est comment est-il possible d'observer un événement invisible, hein, puisque les trous noirs n'émettent pas de lumière? Eh bien, précisément grâce aux ondes gravitationnelles, hein, des ondes dont l'existence ont été prédites il y a un peu plus d'un siècle par Albert Einstein, grâce à sa toute nouvelle théorie de la relativité générale. Des ondes qui n'avaient encore jamais été directement détectées sur Terre. Et avec les ondes gravitationnelles, c'est un peu comme si, métaphoriquement, nous ajoutions le son à l'image. Grâce aux ondes gravitationnelles, nous avons commencé à écouter l'univers d'une certaine façon. Vous avez commencé à l'explorer avec un sens entièrement nouveau. Donc, ce que je souhaite faire avec vous ce soir, hein, c'est essayer de répondre à un certain nombre de questions. Hein, j'ai oublié de vous montrer cette jolie image qui était censée illustrer le fait que nous avons observé l'univers pendant des milliers d'années et que depuis récemment, nous commençons tout juste à l'écouter, une fois encore métaphoriquement, grâce aux ondes gravitationnelles. Et donc ce soir, nous allons essayer de répondre aux quelques questions suivantes. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Quelles sont les sources astrophysiques d'ondes gravitationnelles? Comment est-ce qu'on parvient à détecter ces ondes gravitationnelles? Quelle était la nature des événements qu'on a détectés depuis donc 2015? Et que ces événements nous ont-ils appris? Et si le temps le permet, en fait, j'aimerais aussi que nous évoquions à quoi pourrait ressembler dans le futur, disons dans les décennies à venir, l'astronomie gravitationnelle. Alors, avant toute chose, pour parler des ondes gravitationnelles, il va nous falloir parler d'espace, de temps et de gravitation. Pourquoi? Eh bien parce que les ondes gravitationnelles, c'est avant toute chose une prédiction d'une théorie physique, la théorie de la relativité générale, formulée par Einstein en 1915, qui est actuellement la meilleure théorie dont nous disposions pour décrire la gravitation, mais aussi la nature de l'espace et du temps. Donc, afin de comprendre ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, il va nous falloir faire un petit détour et parler d'espace et de temps. Donc, pour ça, imaginons que nous ayons deux petites boules, deux petites particules, l'une rouge, l'une bleue, ou mettons deux hommes politiques, par exemple Donald Trump à gauche et puis Joe Biden à droite, qui s'apprêtent à se rentrer dedans. Et puis, on fait une photo à un instant T0. Okay? Et on voit que ces deux particules ou ces deux hommes politiques sont en mouvement l'un vers l'autre. À un instant ultérieur T1, ils se sont rapprochés. Puis à un instant ultérieur T2, ils sont entrés en collision et du fait de cette interaction répulsive, à un instant ultérieur, ils s'éloignent et ainsi de suite. Bref, vous avez compris qu'ici nous sommes en train de représenter le mouvement de deux particules dans l'espace au cours du temps. Et afin de vous représenter cette expérience de pensée, évidemment, j'ai retiré une dimension d'espace, puisque nous savons tous que l'espace est censé avoir trois dimensions, hein, on peut se déplacer d'avant en arrière, à gauche, à droite, en haut et en bas, et une dimension de temps qui s'écoule, on va dire, du passé vers le futur. Et sur ce diagramme, j'ai enlevé une dimension d'espace afin de pouvoir vous représenter ce qu'on appelle finalement l'espace-temps, qui ressemble à une espèce de bloc, l'idée étant qu'on fait une infinité de photos espacées les unes des autres d'un tout petit intervalle de temps. Et puis, on met tout ça les uns au-dessus des autres. Ça nous fait une espèce de bloc espace-temps. Et les particules qui se déplacent dans l'espace au cours du temps prennent désormais l'apparence de lignes, hein, ce qu'on appelle des lignes d'univers, ici avec Donald Trump et ici avec Joe Biden. OK ? Donc l'espace-temps, c'est juste ça. C'est la réunion de l'espace et du temps. Et ça a quatre dimensions, même si sur ce schéma, évidemment, il n'y a que trois dimensions d'espace-temps qui sont montrées, deux d'espace et une de temps. Alors avant la relativité, on pensait que l'espace-temps était, plus précisément avant la relativité générale, nous pensions que l'espace-temps était plat. Et ce qu'Albert Einstein nous a appris en 1915, c'est qu'il y a un phénomène physique qui s'appelle la gravitation, qui est en fait une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Donc l'espace-temps est en fait courbé, il est courbé de l'intérieur par la masse et l'énergie de la matière qui se trouve à l'intérieur de l'espace-temps. Alors une analogie qu'on aime souvent prendre, hein, c'est imaginez l'espace-temps comme une espèce de tissu comme ça, malléable, et puis si vous venez poser de la masse dessus, en l'occurrence sur cette image, eh bien tout comme un enfant que vous allez poser sur un trampoline va venir déformer la surface du trampoline, et bien ici la Terre et la Lune, du fait de leur masse, de leur énergie, vont venir courber l'espace-temps. Alors cette analogie a des limites évidemment, puisque ici on imagine une surface qui aurait deux dimensions, alors que l'espace-temps a quatre dimensions, et donc en réalité il est courbé de l'intérieur, cet espace-temps, par la masse et l'énergie qui est dans l'espace-temps. Donc une meilleure façon d'imaginer ça, c'est de reprendre notre bloc espace-temps avec nos deux particules ici, en rouge et en bleu, et puis de le représenter un peu mou, un peu malléable, de l'imaginer un peu, voilà, un peu malléable, tout comme le serait un dessert anglais bien fameux, la jelly, ou l'équivalent français, on va dire le flamby, qui est, j'imagine, toujours célèbre dans les desserts à l'école. Et donc ce flamby, cette jelly, vous pouvez bien visualiser que c'est quelque chose qui est une structure un petit peu malléable comme ça. Et puis vous pouvez déjà anticiper ce que va être une onde gravitationnelle, parce que si je viens agiter l'assiette en bas, eh bien il va y avoir des ondes qui vont se propager dans ce flamby, et ces ondes, dans cette analogie, vont être les ondes gravitationnelles. Donc qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Eh bien avant tout, c'est un phénomène ondulatoire. Donc, je souhaiterais vous rappeler qu'il y a un certain nombre de phénomènes ondulatoires qui sont bien connus en physique. Par exemple, si vous jetez un caillou dans une mare, vous allez avoir un système d'ondes concentriques qui vont se propager à partir du centre et se propager à une certaine vitesse, hein, puisqu'une onde est caractérisée aussi par sa vitesse. Ou encore les ondes sonores qui nous permettent de communiquer en ce moment même, hein, ne sont jamais que des surpressions qui se propagent de proche en proche dans l'air et sur densité, depuis le haut-parleur jusqu'à vos oreilles, à quelque chose comme 300 mètres par seconde, je crois, à température ambiante. Ou encore les ondes sismiques qui se propagent dans la croûte terrestre ou à l'intérieur de la Terre, hein, qui donnent lieu aux phénomènes comme les tremblements de terre. La lumière, c'est peut-être moins connu, mais la lumière n'est jamais qu'un ensemble d'ondes électromagnétiques, c'est-à-dire un ensemble d'oscillations dans le champ électromagnétique qui se propage à très grande vitesse, hein, de l'ordre de 300 000 km chaque seconde. Eh bien, les ondes gravitationnelles, c'est également une onde qui se propage à une certaine vitesse, mais c'est en fait une onde, une oscillation dans la courbure de l'espace-temps lui-même. Et à quelle vitesse se propagent les ondes gravitationnelles? Eh bien, précisément à la même vitesse que l'électromagnétique, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde. Donc les ondes gravitationnelles, c'est l'une des prédictions les plus importantes de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Hein. Donc, une fois encore, la gravitation, c'est juste une manifestation de la courbure de l'espace-temps. L'espace-temps peut se courber, il est malléable, et si vous venez agiter de la masse, par exemple si vous avez ici Donald Trump qui s'agite beaucoup, qui émet beaucoup de messages sur Twitter, et bien il va venir générer des ondes gravitationnelles qui vont ensuite se propager, des petites oscillations dans la courbure de l'espace-temps qui vont se propager à la vitesse de la lumière, qui est représentée ici, donc sur ce schéma, ce diagramme, hein, vous avez ici une dimension d'espace horizontale et puis la dimension du temps sur l'axe vertical. Bien. Alors une question importante, c'est comment est-ce qu'on génère des ondes gravitationnelles? Bien, Pensons par analogie tout d'abord au cas des ondes électromagnétiques. Comment est-ce qu'on génère des ondes électromagnétiques? Mais tout simplement en prenant une particule chargée et puis en accélérant. Par exemple, prenez un électron chargé électriquement avec une charge négative. Si vous accélérez un électron à des vitesses proches, par exemple de celle de la lumière, eh bien, vous allez modifier la structure du champ électrique au voisinage de l'électron et ceci va créer un champ magnétique et un champ électrique qui vont s'auto-entretenir et se propager. Ça va donner lieu au phénomène d'émission d'ondes électromagnétiques. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous avez une antenne radio, vous venez faire parcourir un courant dans votre fil métallique, un courant oscillatoire, ça va générer des ondes électromagnétiques qui vont se propager, qui vous permettent par exemple d'écouter les radios dans une voiture. Eh bien, par analogie, les ondes gravitationnelles vont être générées lorsque vous allez prendre une grande quantité de masse, par exemple des corps astronomiques, de plusieurs fois la masse du Soleil, et puis cette grande quantité de masse, vous allez l'accélérer à des vitesses relativistes, vitesses proches de la vitesse de la lumière. Si vous faites ça, vous allez générer des quantités copieuses d'ondes gravitationnelles. Donc vous pouvez déjà anticiper que des astres comme les trous noirs ou encore les étoiles à neutrons dont on va reparler, surtout en couple, vont être d'excellentes sources d'ondes gravitationnelles. Donc effectivement, quelles sont les sources astrophysiques d'ondes gravitationnelles? Eh bien, on peut penser par exemple aux étoiles massives, plus massives que le Soleil, à la fin de leur vie, elles finissent par exploser dans une explosion spectaculaire qu'on appelle des supernovas. Eh bien, au cours de ces explosions, il peut y avoir une grande quantité de matière qui va être accélérée à grande vitesse, des vitesses relativistes, et ça va générer des ondes gravitationnelles. Ça arrive en moyenne une fois par siècle, une étoile dans notre galaxie qui explose, une supernova. La prochaine, on espère que les détecteurs gravitationnels seront en fonctionnement ou alors à lieu. Si c'est le cas, on devrait pouvoir la détecter à travers l'émission d'ondes gravitationnelles associées. Suite à cette explosion spectaculaire, il reste un cœur extrêmement condensé au centre, qui peut être une étoile à neutrons, isolée donc. Une étoile à neutrons, il faut vous imaginer quelque chose qui a une masse de l'ordre d'une fois et demie la masse du Soleil dans un rayon de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, donc une ville typiquement de la taille de Paris par exemple. Donc représentez-vous une masse colossale, un million de fois la masse de la Terre dans un rayon aussi minuscule, c'est une densité de matière inimaginable. Si vous avez une très légère inhomogénéité dans la distribution de la matière de cette étoile à neutrons, qui tourne typiquement extrêmement rapidement sur elle-même, plusieurs dizaines, voire centaines de fois par seconde sur elle-même, eh bien, vous allez avoir une émission continue d'ondes gravitationnelles qu'on espère pouvoir détecter. On connaît un certain nombre d'étoiles à neutrons isolées dans notre galaxie et on espère pouvoir détecter des émissions d'ondes gravitationnelles associées à ces étoiles à neutrons. Pour l'instant, les seules ondes gravitationnelles que nous soyons parvenus à détecter proviennent de couples d'astres compacts comme les étoiles à neutrons. Donc, si vous avez deux étoiles à neutrons qui orbitent l'une autour de l'autre, alors pourquoi est-ce que ça aurait lieu? Tout simplement parce que la plupart des étoiles vivent en réalité en couple. Et si vous aviez deux étoiles massives qui évoluent, qui chacune d'entre elles finit par exploser et laisse derrière elle un cadavre stellaire comme une étoile à neutrons, eh bien vous pouvez avoir un couple d'étoiles à neutrons. Et lorsque ces deux étoiles tournent l'une autour de l'autre, eh bien elles perdent de l'énergie emportée par les ondes gravitationnelles, de sorte qu'elles se rapprochent progressivement l'une de l'autre dans un mouvement de spiralement et finissent par fusionner. Vous pouvez également avoir des systèmes binaires de trous noirs si les supernovas, par exemple, que je mentionnais, donnent lieu à la formation de trous noirs au centre et non pas d'étoiles à neutrons. Alors, comment est-ce qu'on va détecter ces ondes gravitationnelles d'origine astrophysique? Eh bien, essentiellement grâce à des détecteurs dits interférométriques. Ils sont extrêmement sensibles, extrêmement sophistiqués. J'ai pris le parti de ne pas trop parler du principe de la détection pour pouvoir parler beaucoup plus des détections elles-mêmes et de la science qu'on arrive à en tirer, et ainsi que de ce qu'on fera dans le futur, mais c'est tout un sujet extrêmement intéressant. Aujourd'hui, il existe essentiellement quatre détecteurs qui ont une forme en gros de L, vous pouvez voir sur ces photos, c'est un gigantesque L où chacun des bras fait 3 ou 4 km. Il y a deux détecteurs aux États-Unis, le détecteur LIGO, l'un à Hanford, l'autre à Livingstone. Il y a un détecteur franco-italien qui se trouve à Cascina, près de Pise, en Italie. Et puis, il y a un détecteur au Japon qui a été construit sous une mine, qui s'appelle Kagra. Et l'idée derrière le principe de la détection des ondes gravitationnelles, c'est que lorsqu'une onde gravitationnelle va venir traverser la Terre, imaginez par exemple qu'elle va traverser dans le plan donc perpendiculaire à la direction de propagation, l'onde gravitationnelle va venir modifier les distances sur son chemin. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive du ciel, comme ça, l'onde gravitationnelle, elle va venir légèrement augmenter la taille d'un bras et légèrement diminuer la taille de l'autre. Et en utilisant un phénomène physique qu'on appelle des interférences, avec de la lumière laser, on peut mesurer cette toute petite variation de longueur et ainsi déduire la présence d'un signal d'onde gravitationnelle. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que le signal est extrêmement ténu. C'est-à-dire qu'une onde gravitationnelle d'origine astrophysique typique va induire une variation relative de longueur dans chacun des bras de l'ordre de 10 puissance moins 21. 0, ou virgule 000, vous avez 20 0 et un 1 derrière. Et les bras font de l'ordre de 3 ou 4 km. Ça veut dire que la variation absolue de longueur induite par le passage de l'onde gravitationnelle est de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres, ou encore un millième de micromètre. Un micromètre, c'est la taille typique d'une bactérie. Hein. Un millionième de micromètre, c'est un centième de taille, un centième de fois la taille d'un atome. Et un millionième de micromètre, c'est environ un millième de fois la taille d'un noyau atomique. Eh bien, ces détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles sont capables de mesurer des variations relatives de longueur aussi infimes lorsque les ondes gravitationnelles passent. Pour vous rendre compte de la prouesse expérimentale que ça représente, ça revient à mesurer essentiellement la distance entre le Soleil, mettons le système solaire, et l'étoile la plus proche du Soleil, Alpha du Centaure, située à environ 4 années-lumière du système solaire, à l'épaisseur d'un cheveu près. C'est ce genre de mesure relative de longueur que ces instruments sont capables d'effectuer. C'est effectivement une prouesse technologique, instrumentale, scientifique absolument éblouissante. Et grâce à ces instruments, eh bien, il est désormais possible de détecter des ondes gravitationnelles d'origine astrophysique. La toute première détection a eu lieu, donc, comme je le disais dans l'introduction, le 14 septembre 2015. Et elle a été vue par les deux détecteurs qui se trouvent aux États-Unis, dans l'état de Washington et de Louisiane. À gauche, vous avez ce qui a été vu par le détecteur LIGO-Hanford et à droite, le détecteur LIGO-Livingston. Donc, commençons par regarder ce qui se passe en haut, ici. Eh bien, vous avez représenté en fonction du temps, vous voyez que ça dure, le phénomène dure à peine 0,2 seconde, hein. Vous avez l'amplitude de l'onde gravitationnelle, donc, vous voyez, dont la valeur caractéristique est de l'ordre de 10 puissance moins 21, donc ça correspond également à la variation relative de longueur induite dans le détecteur lors du passage de l'onde gravitationnelle, et vous pouvez voir un signal ici. Alors, si vous n'êtes pas particulièrement familier avec les ondes gravitationnelles, c'est peut-être pas évident, mais si vous savez déjà quoi chercher, eh bien vous pourriez noter qu'il y a ici, il semble y avoir une oscillation, puis une deuxième oscillation, une troisième, une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite. Il se trouve qu'en fait, ici est caché un signal d'onde gravitationnelle qui vous est montré juste en dessous, et que si vous soustrayez ce signal d'origine astrophysique, eh bien, il vous reste quelque chose ici qui est compatible avec ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire tout un tas de choses qui vous embêtent dans le détecteur, hein. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce même signal est visible dans l'autre détecteur qui se trouve à l'autre coin des États-Unis. Ils sont très éloignés l'un de l'autre, les deux détecteurs. Et vous voyez que les signaux se superposent parfaitement. C'est le même signal vu dans deux détecteurs complètement différents, avec des bruits, pour le coup, dans les détecteurs qui sont complètement différents. Alors, vu comme ça, c'est peut-être pas évident, vous pourriez avoir des doutes, hein, mais vous doutez bien qu'avant d'annoncer la toute première détection sur Terre d'une onde gravitationnelle, eh bien, les scientifiques qui travaillent sur ces instruments ont pris toutes les précautions possibles et imaginables. Ils se sont assurés que la détection est bel et bien d'origine astrophysique avec un degré de confiance extrêmement grand. Pour vous donner une analogie, c'est un peu comme si vous pourriez vous dire « Ah, peut-être que c'est un signal qui n'est pas d'origine astrophysique, c'est tout un tas de bruit dans les instruments qui ressemble à une onde gravitationnelle d'origine astrophysique. Bah, » c'est un peu comme si vous êtes dans votre voiture et puis vous êtes entre deux stations de radio, vous entendez du bruit, et puis par chance, vous avez, allez, on va dire, 30 secondes d'une très jolie symphonie de Mozart qui se met à être le fruit comme ça de tout un tas de fluctuations aléatoires du bruit. C'est pas impossible, c'est juste extrêmement improbable. Eh bien, là, c'est la même chose. Vous pouvez vous assurer avec un très grand degré de certitude qu'il s'agit bel et bien d'un phénomène d'origine astrophysique. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est en fait de l'écouter, ce signal, tout simplement parce que les ondes gravitationnelles émises par des sources qu'on peut détecter à l'aide des détecteurs sur Terre ont le bon ton d'avoir des fréquences qui tombent dans la bande audio, la bande audible, la bande de fréquences auxquelles nos oreilles sont sensibles, entre 20 Hz et 20 kHz. Le signal, en l'occurrence, a une fréquence qui varie en gros entre quelques dizaines et quelques centaines de Hz. Donc c'est un bruit qui nous paraît très sourd, avec une structure qui est difficile à entendre. Du coup, on va le jouer, et puis vous allez entendre quelque chose qui ressemble un peu à un battement de cœur qui va être joué deux fois. Ça correspond vraiment au signal. Il est joué une première fois, et puis une deuxième fois. C'est un bruit très sourd. Et ensuite, vous allez entendre, une fois encore à deux reprises, le même son, mais décalé à plus haute fréquence, parce que nos oreilles sont plus sensibles à haute fréquence, ce qui nous permet de mieux entendre la structure du son. Donc, je vais demander à Jean, si c'est possible, de lancer la première vidéo, de façon à pouvoir entendre ce signal. La haute fréquence, puis de nouveau à basse fréquence, deux fois, et à haute fréquence. Donc en principe, vous auriez dû entendre quelque chose qui ressemble à un gazouillis d'oiseau, c'est-à-dire un signal dont la fréquence et l'amplitude augmentent au cours du temps. Et ça, c'est la signature caractéristique du spiralement et de la fusion de deux trous noirs, ou éventuellement de deux étoiles à neutrons, ou d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons. C'est précisément la vitesse à laquelle cette fréquence augmente au cours du temps qui va nous permettre de déterminer dans quel cas on est. Mais en l'occurrence, avec ce signal-là, en l'analysant de près, on peut en déduire que c'est bel et bien un couple de trous noirs qui est à l'origine de ce signal. Ce qui se passe, c'est que l'amplitude du signal non gravitationnel qui vous est montré ici, en fonction du temps, une fois encore 0,2 seconde, vous voyez les oscillations, cette fréquence augmente au cours du temps, ainsi que l'amplitude, jusqu'à atteindre un maximum qui correspond au moment où les deux trous noirs fusionnent, comme deux bulles de savon qui vont venir fusionner, puis le signal va décroître pour atteindre un retour à zéro, plus de signal non gravitationnel, lorsque le trou noir qui est résulté de cette fusion a atteint un état d'équilibre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement spectaculaire qui a eu lieu là. Il faut vous rendre compte que pendant ces 0,2 seconde, vous avez deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires chacun qui ont tourné l'un autour de l'autre plusieurs dizaines de fois à la moitié de la vitesse de la lumière. Et chacun de ces trous noirs a une taille caractéristique de quelques dizaines de kilomètres. Donc rendez-vous compte, vous avez quelque chose comme 60 fois la masse du Soleil dans un espace minuscule, et ces deux corps qui tournent l'un autour de l'autre à des vitesses relativistes fusionnent, et dans ce processus ont émis des quantités considérables d'ondes gravitationnelles dont nous parvenons à capter une toute petite fraction 1,3 milliard d'années après que cet événement ait eu lieu. Alors si vous analysez le signal de près, vous réalisez que les masses des deux trous noirs en question étaient de l'ordre de 29 masses solaires et 36 masses solaires, et que la masse du trou noir final résultant de la fusion était de l'ordre de 62 masses solaires. Donc un peu d'algèbre, normalement, devrait vous dire qu'il y a un petit souci, là, les scientifiques nous racontent n'importe quoi, parce que 29 plus 36, ça fait 65, et donc là, on dirait que la masse n'est pas conservée. Il y a un problème. Eh bien non, il n'y a pas de problème. Ce qui est conservé, c'est la masse énergie, nous apprend Einstein, le fameux E égale mc2. Et ce qui se passe, c'est que l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil, trois masses solaires ont été entièrement converties sous forme de pure énergie rayonnée en ondes gravitationnelles. Donc vous avez bel et bien conservation de la masse énergie totale. Initialement, vous aviez 65 masses solaires d'équivalent énergie dans les deux trous noirs, et à la fin, il vous reste un trou noir de 62 masses solaires et l'équivalent de trois masses solaires parties en énergie rayonnée par ce système binaire de trous noirs. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un événement historique? Bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, évidemment, parce que c'est la première détection directe d'une onde gravitationnelle sur Terre. On savait qu'elles existaient à travers leurs effets indirectement sur d'autres systèmes astrophysiques, mais c'est la première fois qu'on arrive à les capter avec des détecteurs sur Terre dont nous maîtrisons bel et bien le fonctionnement. Mais surtout, je pense que c'est un événement historique parce que c'était la première preuve, et la preuve la plus robuste, la preuve la plus directe de l'existence des trous noirs. Avant ça, toutes les preuves que nous avions de l'existence des trous noirs reposaient sur du rayonnement électromagnétique émis par de la lumière, pardon, par de la matière qui tombait dans ces trous noirs. Mais là, c'est véritablement un phénomène physique généré par un couple de trous noirs qu'on arrive à voir, à savoir une onde gravitationnelle. C'est aussi la découverte du premier système binaire de trous noirs. Maintenant, on sait que les trous noirs vivent en couple, ce qui n'était absolument pas connu auparavant. Et c'est également pour la première fois l'opportunité de faire des tests de la théorie de la relativité générale dans un régime physique très différent, un régime dit de champ fort, très différent de ce qui se passe dans le système solaire. Dans le système solaire, les prédictions de la théorie de la relativité générale sont très proches de celles de la théorie de Newton, alors que ici, la théorie de Newton nous raconterait essentiellement n'importe quoi. Et la relativité générale fait une prédiction bien précise qui est parfaitement en accord avec l'observation. Alors, je vais demander maintenant à Jean de nous lancer la deuxième vidéo, afin de vous montrer à quoi ressemblerait la fusion de ces deux trous noirs si vous étiez au-dessus du plan orbital, à une distance raisonnable. Donc vous voyez ici hein, deux ombres, les deux trous noirs, et puis vous voyez des phénomènes optiques assez bizarres, ce sont des effets de l'anti-âge gravitationnel, et vous voyez que les deux trous noirs ont l'air de se rapprocher doucement, les orbites l'un entre l'autre, et puis ils finissent par hop là, fusionner pour faire un seul trou noir qui atteint un état d'équilibre. Et cette vidéo, bon, elle est jolie. On voit des effets de l'anti-âge gravitationnel dû au fait que le champ gravitationnel intense des trous noirs dévie la trajectoire de la lumière émise par les étoiles en arrière-plan. Mais ce n'est pas très excitant en réalité ce qui se passe sur cette vidéo. Tout simplement parce que l'essentiel de l'action a lieu non pas dans le domaine du visible, de ce que nous pourrions voir avec nos sens, percevoir avec nos sens, mais dans le domaine de l'émission des ondes gravitationnelles. Comme je l'ai dit, hein, il y a l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil qui est partie sous forme gravitationnelle. Et donc, ce que je vais vous montrer maintenant avec une autre vidéo, top, Jean, s'il te plaît, c'est une simulation des ondes gravitationnelles émises par ces deux trous noirs. Ce qui vous est représenté ici par un code couleur, hein, en rouge, orangé. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les deux trous noirs qui sont en orbite l'un autour de l'autre se rapprochent, eh bien, l'amplitude des ondes augmente, ainsi que leur fréquence, hein, jusqu'à atteindre un maximum à peu près au moment où les deux trous noirs fusionnent pour ne faire qu'un seul trou noir. Donc c'est le champ du signe hein, de ces deux trous noirs. Hop là, on atteint un état d'équilibre avec une dernière bouffée de rayonnement gravitationnel émise, et c'est la fin d'émission de ondes gravitationnelles. Donc, ça, c'était la première détection hein, d'une onde gravitationnelle il y a à peu près 5 ans. Mais depuis, les détecteurs LIGO ainsi que le détecteur franco-italien Virgo et plus récemment le détecteur japonais Kagra ont effectué d'autres observations. Il y a eu plusieurs campagnes d'observation. Au cours des 2 premières campagnes d'observation qui ont lieu en 2015 et 2017, pas moins que 10 couples de trous noirs ont été observés, hein, 10 ondes gravitationnelles en provenance de couples de trous noirs avec des propriétés très similaires à ce que je vous ai présenté dans le cadre de la toute première détection qui était véritablement historique. Et sur ce diagramme, je vous représente essentiellement l'ensemble des événements qui ont été vus hein, au cours de ces 2 premières campagnes d'observation. Alors, regardez bien en haut, vous avez une échelle graduée, 5, 10, 20, 40, 80, c'est gradué en masse solaire. Et chaque cercle coloré correspond en fait à un trou noir. Alors, vous avez les violets ici, qui sont tout seuls, qui correspondent aux trous noirs que nous connaissions déjà, qu'on observait indirectement à travers l'émission donc, de lumière émise par de la matière en orbite autour de ces trous noirs. Donc, des trous noirs qu'on voyait à travers l'électromagnétisme, disons. La preuve indirecte de l'existence de ces trous noirs, dont les masses étaient comprises entre 5 et en gros 10, 15 ou 20 masses solaires. Et vous voyez qu'avec les 10 fusions de trous noirs qu'on a pu observer grâce à LIGO et Virgo, eh bien, on a accès à toute une nouvelle catégorie de masses de trous noirs, hein, avec des masses qui s'échelonnent entre, on va dire, 7 masses solaires ici, peut-être, et jusqu'à 80 masses solaires pour celui qui résulte de la fusion ici d'un trou noir d'une 30aine de masses solaires et d'une 50aine de masses solaires. Donc, ce sont toute une nouvelle catégorie de masses de trous noirs que nous ne connaissions pas auparavant, que nous connaissons désormais grâce à ces observations d'ondes gravitationnelles. Et puis en bas, vous avez tout un tas de petits points jaunes qui correspondent à des étoiles à neutrons isolées qu'on connaît dans notre galaxie, hein, à gauche et à droite ici, avec des masses qui s'échelonnent entre en gros une et deux masses solaires. La masse caractéristique typique, c'est une fois et demie la masse du Soleil. Et puis vous avez ici deux étoiles à neutrons, hop, qui sont réunies pour donner un objet d'un peu plus de deux masses solaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un autre événement qui a été détecté en août 2017, cette fois-ci. L'événement GW170817, donc le 17 août 2017, un signal d'onde gravitationnelle a été capté, mais cette fois-ci, pas pendant une fraction de seconde, pendant un peu plus d'une minute, avec le même signal caractéristique, hein, qui correspond donc au spiralement de deux étoiles à neutrons. Donc Jean, si tu peux lancer s'il te plaît la vidéo, top. Donc vous allez entendre en principe quelque chose qui ressemble un peu à du bruit. Ça va durer environ 30 secondes. Il y a un signal qui est caché là-dedans et sur l'image, j'espère vous pouvez voir, va se construire cette signature caractéristique qui correspond au spiralement de ces deux étoiles à neutrons. Écoutez bien la fin. Si vous avez l'ouïe fine, vous auriez dû entendre quelque chose qui ressemble encore à ce petit gazouillis, qui était la signature caractéristique du spiralement de ces deux étoiles à neutrons. Donc, contrairement aux signaux d'ondes gravitationnelles qui étant donné la masse des trous noirs ne durent ne sont observés que pendant en gros une fraction de seconde ou quelques secondes, hein, peut-être deux secondes tout au plus ici pour ce signal dans les détecteurs. En ce qui concerne cet événement, il a été vu pendant une soixantaine de secondes. Donc, imaginez cette figure, vous la prolongez pendant non pas 3 secondes, mais 60 secondes. Vous avez beaucoup, beaucoup d'oscillations. D'oscillations qui sont observées dues à tous les cycles orbitaux hein, qui sont effectués par ces deux étoiles à neutrons, tandis qu'elles tournent l'une autour de l'autre, jusqu'à ce qu'elles finissent par fusionner pour faire vraisemblablement un trou noir. Et sur cette autre animation, hein, qui est une vue d'artiste bien informée par la science, disons, vous allez voir à quoi ressemble ce spiralement de deux étoiles à neutrons. Jean, si tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît. Top. Donc vous voyez ici ces deux étoiles à neutrons. Donc une fois encore, c'est quelque chose comme une fois et demie la masse du Soleil pour chacune d'entre elles, avec une taille caractéristique de 10 km, et représentée en bleu, de manière imagée, hein, les ondes gravitationnelles associées à ces deux étoiles à neutrons. Et là, vous avez les dernières orbites jusqu'à ce qu'elles finissent par fusionner, donnant lieu à une gigantesque explosion, une explosion extrêmement puissante, qui génère énormément de rayonnement électromagnétique, hein, des rayons gamma, X, ultraviolet, infrarouge, radio. Et au centre, vraisemblablement, un trou noir qui s'est formé. Et ce qui est tout à fait remarquable avec ce signal d'onde gravitationnelle, qui a été vu donc le 17 août 2017 par les détecteurs LIGO et Virgo, ce qui vous est montré en bas, c'est que moins de 2 secondes après la fusion présumée de ces deux étoiles à neutrons, le détecteur spatial Fermi, qui est un détecteur de rayonnement gamma, a observé un sursaut gamma, dit court, hein, parce qu'il ne dure pas très longtemps, moins de 2 secondes après. Et si vous regardez la localisation dans le ciel de l'événement non gravitationnel et du sursaut gamma, eh bien, il y a une toute petite bande ici, bon, qui en réalité dans le ciel n'est pas si petite que ça, une espèce de banane là en vert foncé, qui coïncide avec la localisation possible telle que déterminée par LIGO et Virgo de l'événement en onde gravitationnelle et la détection de Fermi qui est dans cet ovoïde ici bleu. Donc vous voyez qu'il y a une zone en commun. Hein, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il y a un point dans cette zone en commun. Si vous faites un zoom Vous voyez qu'il y a une galaxie ici qui s'appelle NGC 4993, un joli nom très poétique, et qu'il y a un point qui s'est allumé, en visible, si je me souviens bien, sur cette photo, qui était auparavant éteint. Et qu'est-ce que c'est, ça? Eh bien, c'est la contrepartie électromagnétique qui fait suite à la fusion de ces deux étoiles neutrons qui est vue donc ici en visible. Donc, vous avez eu d'abord l'émission non gravitationnelle qui a été observée par LIGO et Virgo. Juste après la fusion, moins de deux secondes après, un sursaut gamma en provenance de ce point. Et puis, pendant les heures, les jours, les semaines et même les mois qui ont suivi, eh bien, tout un tas d'ondes électromagnétiques qui ont été vues donc, en rayon X, en ultraviolet, en optique, en infrarouge, en radio. Bref, c'est tout le spectre électromagnétique qui est passé. Et ce que ça a permis de faire, c'est bel et bien la toute première observation astronomique dite multimessager. Ça faisait des décennies qu'on en parlait, qu'on attendait. Ça a eu lieu pour la première fois. On a observé en ondes gravitationnelles le spiralement de deux étoiles à neutrons, puis leur coalescence a donné lieu à un sursaut gamma court, et ensuite il y a eu tout un tas d'autres émissions électromagnétiques qui ont été observées. Donc ça, c'était un événement tout à fait considérable, hein. Le nombre d'observatoires ici en jeu est énorme, hein. Je crois que c'est 700 observatoires peut-être. C'est un tiers de la communauté astronomique mondiale qui a signé un papier résumant cette découverte, hein. Une découverte qui, une fois encore, est historique pour de multiples raisons. La première observation d'une fusion d'étoiles à neutrons grâce aux détecteurs LIGO et Virgo. Le lien qui a finalement été établi entre la fusion des étoiles à neutrons et les sursauts gamma dits courts. On pensait effectivement que les progéniteurs des sursauts gamma courts étaient bel et bien la fusion de deux étoiles à neutrons. C'est maintenant confirmé. Ça a permis également de conforter la théorie de la nucléosynthèse par un processus qu'on appelle le processus R, qui conduit à la génération donc de la moitié des éléments lourds, plus lourds, mettons que, on va dire, l'hélium. L'autre processus important, c'est au cours des supernovas. Et puis, il y a tout un tas de choses qu'on a pu faire en physique fondamentale, en cosmologie, en astrophysique, par exemple, mesurer la vitesse d'expansion de l'univers de manière complètement indépendante des autres méthodes, ce qu'on appelle la constante de Hubble. Également mettre une très forte contrainte sur la vitesse de propagation des ondes, hein, sachant que cet événement a eu lieu il y a très très longtemps, que les ondes se sont électromagnétiques et les ondes gravitationnelles se sont propagées pendant extrêmement longtemps, et qu'on a reçu le sursaut gamma court moins de deux secondes après l'onde gravitationnelle, eh bien, ça nous permet en fait, d'établir que la vitesse des ondes gravitationnelles est égale à la vitesse des ondes électromagnétiques à quelque chose de l'ordre de 10 puissance moins 15. Une contrainte extrêmement forte qui permet du coup d'exclure aussi tout un tas de théories alternatives à la gravité. Donc le temps coule, il me reste une vingtaine de minutes peut-être tout au plus. Du coup, je souhaiterais terminer en vous parlant du futur, le futur de l'astronomie gravitationnelle. Bien, aujourd'hui, nous avons un réseau mondial de détecteurs terrestres, hein, les deux détecteurs aux États-Unis, LIGO, des détecteurs en Europe, Virgo, dont j'ai beaucoup parlé, et un plus petit, GEO, en Allemagne. Un des détecteurs états-uniens, LIGO, va être installé en Inde, et puis le détecteur japonais. Il y a eu trois campagnes d'observation qui ont été effectuées. J'ai mentionné les deux premières déjà. Et là, les détecteurs se sont arrêtés. Il y aura une quatrième campagne d'observation qui devrait commencer en principe à la fin de l'année prochaine. Et grâce à l'amélioration de la sensibilité des détecteurs, on s'attend désormais à avoir plusieurs centaines d'événements par an. Je vous montre ici sur ce schéma le nombre cumulé de détections et d'événements qui peuvent par la suite être confirmés comme étant effectivement des détections. Au cours de la troisième campagne d'observation qui a eu lieu entre le mois d'avril de l'année dernière et la fin du mois de mars de cette année, avec une coupure d'un mois en octobre 2019. Donc vous avez ici à peu près 11 mois d'observation, et vous voyez que vous avez plus de, en gros, une soixantaine de candidats. Donc on commence bel et bien à avoir de très 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 nombreuses observations, parce qu'on a de plus en plus de détecteurs et que ces détecteurs sont de plus en plus sensibles. Alors, au cours de la troisième campagne d'observation, il y a eu trois événements qui ont été particulièrement intéressants. Vous noterez ici qu'il y a eu une deuxième fusion d'étoile à neutrons qui a été observé. Mais surtout, l'événement dont je vous parlais, c'est celui-ci qui est représenté un peu plus éclairé ici. C'est la fusion d'un trou noir de environ 23 masses solaires avec un objet compact de environ 2,6 masses solaires pour donner un trou noir d'environ 26 masses solaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que le rapport de masse est très grand, hein, puisque c'est en gros hein, cet objet est 10 fois plus massif que celui-ci, mais surtout, c'est que cet objet de 2,6 masses solaires, eh bien, on ne sait pas si c'est un trou noir ou une étoile à neutrons, tout simplement parce qu'on n'a jamais vu une étoile à neutrons de plus de 2,1 masse solaire. On s'attend a priori à ce que les étoiles à neutrons aient une masse inférieure à quelque chose comme 2,3 masse solaire. Donc 2,6 masse solaire, ce n'est pas évident que ce soit une étoile à neutrons. Et on n'a jamais vu non plus un trou noir dont la masse est inférieure à, allez, on va dire, 5, 4 ou 3 masses solaires. C'est ce qu'on appelle en anglais le mass gap. Ça correspond à une bande de masse, hein, en gros entre 2 et 5 masses solaires, où on s'attend à avoir ni trou noir ni étoile à neutrons. Et là, on a un objet compact de 2,6 masses solaires qui est soit l'étoile à neutrons la plus massive jamais observée, soit le trou noir le moins massif jamais observé. Et ça remet quand même un peu en compte ce qu'on croit savoir sur la théorie de l'évolution des étoiles. Autre événement qui a été vu au mois de mai, cette fois-ci, 2019, dans la troisième campagne d'observation, la fusion de deux trous noirs qui étaient eux-mêmes déjà bien massifs, hein, quelque chose comme 65 masses solaires et un peu plus de 80 masses solaires pour vous faire un trou noir de presque 160 masses solaires. Et là, 160 masses solaires, on commence à parler de trous noirs de masse intermédiaire. Hein. Jusqu'à présent, on connaissait les trous noirs de masse stellaire, de quelques masses solaires à quelques dizaines de masses solaires, les trous noirs supermassifs, dont je vais parler sous peu, de quelques millions à quelques milliards de masses solaires, mais des trous noirs de plusieurs centaines de masses solaires ou milliers de masses solaires, c'est des trous noirs dont on n'était pas certain qu'ils existent, des trous noirs de masse intermédiaire. Et là, on sait qu'ils existent, puisque ces deux trous noirs qui étaient déjà sacrément massifs ont fusionné pour faire un trou noir de presque 160 masses solaires. Et au passage, ces trous noirs-ci, mettons de 80 masses solaires ici, on ne sait pas non plus les faire en faisant exploser des étoiles. La théorie de l'évolution stellaire vous dit que quand vous avez une supernova, votre trou noir, il ne devrait pas avoir une masse de résultant, il ne devrait pas avoir une masse aussi élevée. Donc là encore, ça fait nous poser des questions, retourner au tableau et essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'on fait des trous noirs de masse aussi élevée. Donc ça, c'est pour les détecteurs existants. Bien sûr, il y a des projets pour le futur, des détecteurs dits de troisième génération, comme le projet dit Einstein Telescope, à l'étude par la Commission européenne. Il s'agirait donc cette fois-ci d'un détecteur encore plus sensible, hein, qui serait sous Terre. Mais ce dont je souhaite vous parler, c'est plutôt d'une mission, d'une antenne gravitationnelle dans l'espace, donc une mission spatiale qui s'appelle LISA. Le Laser Interferometer Space Agency, Antenna, pardon, qui est un projet qui a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne, hein, qui est financé, qui est en cours d'étude, qui est en cours de construction, et qui, si tout va bien, devrait être lancé au cours de la décennie 2030, donc officiellement en 2034. Et l'idée, c'est d'avoir cette fois-ci cet interféromètre laser dans l'espace avec des bras ici, où circule de la lumière laser, d'environ 2,5 millions de kilomètres. Et ces trois vaisseaux seraient en orbite autour du Soleil, une vingtaine de degrés derrière l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et ce qui est intéressant avec LISA, c'est que c'est un détecteur d'ondes gravitationnelles qui sera sensible à des ondes gravitationnelles à bien plus basse fréquence que LIGO ou Virgo, et qui sera donc capable d'observer des sources d'ondes gravitationnelles tout à fait différentes. Avec LISA, on va pouvoir écouter une symphonie cosmique qui est composée d'un ensemble d'instruments. L'un des instruments, on va dire, c'est le spiralement de couple de naines blanches, des astres qui résultent de l'évolution d'étoiles telles que le Soleil, et qui vont émettre un signal essentiellement monochromatique. Donc en termes de musicalement, ce n'est pas encore très intéressant. Un peu plus intéressant, c'est la fusion de trous noirs supermassifs. Donc vous reconnaissez ici le signal caractéristique de l'onde gravitationnelle émise par la fusion de trous noirs que je vous ai déjà montré, hein, Alors, pourquoi des trous noirs supermassifs? Eh bien, parce qu'on sait qu'au sein de chaque galaxie telle que la nôtre se trouve un trou noir supermassif, dont la masse est comprise entre quelques millions et quelques milliards de masses solaires. Par exemple, au sein de notre propre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir d'environ 4 millions de masses solaires. Ça a d'ailleurs valu l'attribution de la moitié du prix Nobel de physique cette année à des astronomes qui ont observé le mouvement d'étoiles autour de ce trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Et l'ISA sera capable de détecter toutes les ondes gravitationnelles émises par tous les couples de trous noirs supermassifs résultant de la fusion de galaxies elles-mêmes. Hein. Au cours de l'évolution cosmologique, les galaxies fusionnent, leurs trous noirs en leur sein, on s'attend à ce qu'ils fusionnent également, ça émet des ondes gravitationnelles que l'ISA verra. Une autre source d'ondes gravitationnelles particulièrement riche, avec un signal beaucoup plus complexe, hein, ça commence à ressembler à de la musique potentiellement intéressante, c'est ce qu'on appelle les systèmes binaires à rapport de masse extrême. Vous avez un objet compact de masse stellaire, comme une étoile à neutrons ou un trou noir de masse stellaire, qui orbite autour d'un de ces trous noirs supermassifs au centre d'une galaxie. Et là, le signal gravitationnel est extrêmement riche, j'y reviendrai, ce qui permet de faire beaucoup de sciences très intéressantes. Et on espère évidemment également pouvoir détecter des ondes gravitationnelles qui ont été émises très peu de temps après le Big Bang, une fraction de seconde après le Big Bang, au cours d'une éventuelle phase d'inflation qu'aurait connue l'univers, pendant laquelle sa taille aurait cru de manière considérable en très peu de temps. Et l'ISA pourra éventuellement détecter une signature en ondes gravitationnelles caractéristique de cette phase d'inflation. Alors, j'ai déjà mentionné que les galaxies telles que la Voie lactée arborent en leur sein un trou noir supermassif, que ces galaxies fusionnent au cours de l'évolution cosmique. Hein. On en a de nombreux exemples qui sont montrés ici. On s'attend donc à ce que les trous noirs qui sont au sein de chacune de ces galaxies finissent eux aussi par fusionner, ce qui devrait donner lieu donc à des ondes gravitationnelles que l'ISA devrait détecter. Et ces détections permettront donc d'explorer la croissance des trous noirs hein, au cours des temps cosmiques et de comprendre l'évolution des galaxies. Mais ce que je souhaiterais mettre en avant, pour terminer, en termes de science particulièrement excitante, en tout cas de mon point de vue, c'est ces systèmes binaires à rapport de masse extrême. Alors pour ça, je vais faire une petite analogie. Pensons à la géodésie. Hein. La géodésie, c'est étymologiquement la science qui vise à mesurer la Terre. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on envoie par exemple des satellites dans l'espace en orbite autour de la Terre. Et ces satellites tombent dans le champ gravitationnel terrestre. Hein. Leur mouvement est totalement déterminé par la courbure de l'espace-temps générée par la Terre elle-même, par la masse de la Terre. Et donc, en suivant le mouvement orbital de ces satellites autour de la Terre, eh bien, on parvient à mettre des contraintes sur la distribution de la masse de la Terre, sur la forme de la Terre, pourrait-on dire. C'est la géodésie. Eh bien, de la même façon, si vous prenez un trou noir massif au centre d'une galaxie et puis que vous avez un astre compact ici, tout petit, une étoile à neutrons ou un trou noir de masse stellaire en orbite autour de ce trou noir supermassif, eh bien, il va agir comme une sonde du champ gravitationnel généré par ce trou noir massif. Son mouvement est extrêmement complexe et le mouvement orbital de ce petit corps autour de ce trou noir va émettre des ondes gravitationnelles que l'ISA pourra capter. Et ce signal d'onde gravitationnelle est directement associé au mouvement orbital qui, comme je l'ai dit, est directement associé à la forme du trou noir. Et donc, en faisant ce genre de mesure non gravitationnelle, on va pouvoir mesurer la forme d'un trou noir et surtout créer un néologisme, la science de la botryomélanésie, hein, du grec pour cavité noire, qui devrait être une façon extrêmement précise de tester une prédiction de la théorie de la relativité générale qu'on appelle parfois le théorème de calvitie des trous noirs. Les trous noirs n'ont pas de cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les trous noirs sont des objets macroscopiques extrêmement simples. Ils sont caractérisés exclusivement par deux nombres, leur masse et leur spin ou moment angulaire intrinsèque, en gros la vitesse à laquelle ils tournent sur eux-mêmes. Donc, la théorie de la relativité générale nous prédit que les trous noirs sont caractérisés exclusivement par ces deux nombres. Toutes les autres propriétés des trous noirs, toutes les éventuelles bosses qu'ils peuvent avoir, si vous voulez, tous les autres cheveux qui peuvent les caractériser, sont fonction de la seule masse et du spin. Donc, en détectant les ondes gravitationnelles émises par ces systèmes binaires à rapport de masse extrême, on pourra effectivement mesurer la forme de l'objet au centre, hein, et tester ce théorème de calvitie des trous noirs. Alors, ben j'ai presque terminé. Du coup, je sautais peut-être cette planche et terminer avec un peu de prospective. Hein. C'est toujours difficile d'essayer de prédire l'avenir. Donc, je pense que c'est une sage d'essayer de se tourner plutôt vers le passé et d'en tirer des leçons pour essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver par la suite. Donc, ce que je vous propose de faire, hein, c'est de voir ce qui s'est passé en astronomie chaque fois qu'on a commencé à regarder le ciel avec un vecteur d'information nouveau, chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Par exemple, au début du XVIIe siècle, Galilée tourne sa lunette astronomique vers la Lune. Et qu'est-ce qu'il observe? Des cratères lunaires. Ce qui remet immédiatement en question, hein, la théorie aristotélicienne d'un monde sublunaire périssable, hein, et d'un monde supralunaire permanent. On pourrait dire que c'est le début de l'astronomie moderne. L'année suivante, il observe les quatre satellites dits galiléens, hein, quatre des satellites de Jupiter, et donc met en évidence le fait que la Terre n'est pas la seule planète du système solaire à avoir un satellite. Une découverte fondamentale, évidemment. On arrive maintenant au début du XXe siècle avec l'observation des rayons cosmiques en 1912 et quelques décennies plus tard, la découverte inattendue de nouvelles particules dans ces rayons cosmiques qui s'appellent des muons, des particules élémentaires qu'on ne connaissait pas. Au début des années 30, on commence à observer le ciel à l'aide d'ondes radio. Et quelques décennies plus tard, Penzias et Wilson, qui sont montrés ici, font la découverte de ce qu'on comprendra plus tard être le fond diffus cosmologique, hein, qui nous donne énormément d'informations sur l'état de l'univers quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Ce qui a d'ailleurs valu à Penzias et Wilson l'attribution du prix Nobel de physique. Et quelques années plus tard, Jocelyn Bell découvre les pulsars des étoiles à neutrons fortement magnétisées qui émettent des rayons radio, ce qui a valu à son directeur de thèse l'attribution du prix Nobel de physique. 1948, ouverture de la fenêtre des rayons X, et 1962, donc 15 ans plus tard, découverte des systèmes binaires X, hein, c'est-à-dire de rayonnement X émis par un disque d'accrétion fortement chauffé, formé de matière arrachée par le champ gravitationnel d'un trou noir à une étoile compagnon. Il s'agit ici donc de ces systèmes qui nous ont permis pour la première fois d'avoir des évidences, des preuves indirectes de l'existence des trous noirs à travers ce rayonnement électromagnétique. 1960, on observe le ciel avec les rayons gamma. 1967, on découvre par hasard les sursauts gamma. Donc, j'ai mentionné les sursauts gamma courts, hein, qui sont désormais, on le sait, associés à la fusion de systèmes binaires d'étoiles à neutrons. Une autre découverte qui a eu lieu en 2010 sur laquelle je passe, mais bref, vous commencez à voir l'idée, hein. 1968, on observe des neutrinos en provenance du Soleil. 2001, on découvre le phénomène d'oscillation des neutrinos qui peuvent changer de saveur, hein, mu, tau, électronique. Bref, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Vraisemblablement, 2015, ouverture de la fenêtre des ondes gravitationnelles. Évidemment, une date indéterminée dans le futur, on va faire des découvertes inattendues et donc on a vraisemblablement de nombreuses surprises en perspective. Tout simplement parce que la nature est toujours beaucoup plus inventif que nous, hein. Jusqu'à présent, on a vu des signaux auxquels on s'attendait. Il est certain que dans un futur indéterminé, nous verrons des signaux auxquels on ne s'attendait pas. Et donc, en résumé, eh bien, je vous ai, j'espère, montré que les ondes gravitationnelles sont des oscillations dans la courbure de l'espace-temps qui se propagent dans l'univers à la vitesse de lumière, que ces ondes sont générées lors de l'accélération de grandes concentrations de masse à des vitesses proches de celles de la lumière, hein, que nous sommes désormais capables de détecter ces ondes qui sont émises par donc typiquement des systèmes astrophysiques, hein, comme les systèmes binaires d'astres compacts, comme par exemple les étoiles à neutrons ou les trous noirs. Depuis 2015, nous observons de telles ondes gravitationnelles hein, qui résultent de la fusion de couches de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Et nous avons déjà fait un certain nombre d'observations, hein, en gros une quinzaine de signaux au cours des deux premières campagnes d'observation. Là, pas plus tard que la semaine dernière, une trentaine d'autres signaux ont été annoncés par la collaboration LIGO-Virgo. Donc vous voyez que ça avance très vite et chacun de ces nouveaux signaux d'ondes gravitationnelles nous apprend énormément de choses, hein, comme j'ai essayé de vous l'illustrer. Donc ces découvertes historiques ont véritablement inauguré une nouvelle ère en astronomie, hein, qui est celle de l'astronomie gravitationnelle. Et comme je l'ai indiqué dans la dernière partie de cet exposé, les décennies à venir vont être particulièrement excitantes en termes de nouvelles observations et de nouvelles découvertes. Bien, ben merci pour votre attention et si vous avez des questions, je serai heureux d'essayer d'y répondre.
Ben merci beaucoup à toi Alexandre, c'était passionnant de voir cette histoire, ça donne un peu le vertige en fait. Ça commence il y a plus de 100 ans avec Albert Einstein et d'autres là qui font des prédictions. Pendant des décennies, c'est étudié. Il y a des expériences complètement incroyables qui sont mises en place avec plein de chercheurs, de techniciens à travers le monde. Moi, je trouve que c'est beau de voir ça. En fait, on voit que c'est à l'honneur de l'espèce humaine, je trouve, de faire des travaux aussi longs sur des si longues échelles de temps. Et puis, tous ces résultats sont vraiment intéressants. Alors, il y a plein de questions sur le chat. Alors, je vais t'en transmettre quelques-unes. Au tout début, il y en a beaucoup, tu en as en partie répondu pendant ta présentation, mais bah, peut-être tu peux les préciser un petit peu plus. Notamment, il y a plusieurs questions qui sont revenues au tout début sur la nature des ondes gravitationnelles. Il peut y avoir parfois un peu de confusion entre des ondes électromagnétiques donc, qui propagent la lumière, les ondes mécaniques qui propagent le son, et là, les ondes gravitationnelles. Alors, est-ce que tu peux un petit peu revenir là-dessus, les différences? Est-ce qu'une onde gravitationnelle et une onde électromagnétique et une onde mécanique, ou c'est encore autre chose? Tu peux un petit peu revenir là-dessus.
D'accord, je reviens là-dessus. Alors, effectivement, c'est autre chose. Hein. J'ai donné quelques exemples d'ondes tout à l'heure ici. Donc, il y avait des ondes mécaniques comme les ondes sonores ou les ondes qui se propagent dans la Terre, les ondes sismiques, hein, où le support serait l'air ici pour les ondes sonores ou la croûte terrestre. Pour les ondes sismiques. Les ondes électromagnétiques, ce sont des vibrations du champ électrique et du champ magnétique, et toutes ces ondes se propagent dans l'espace-temps. D'accord ? Les ondes gravitationnelles, c'est autre chose. Les ondes gravitationnelles, c'est un phénomène ondulatoire, il y a une vitesse de propagation, mais c'est une oscillation dans la courbure de l'espace-temps qui se propage. Donc le support, si vous voulez, c'est l'espace-temps lui-même. C'est l'espace-temps lui-même qui a une nature ondulatoire. Et ce qu'il y a de commun avec les ondes électromagnétiques, c'est la vitesse de propagation. Les ondes gravitationnelles se propagent à la même vitesse que les ondes électromagnétiques. Si vous pensez à ça en termes corpusculaires, en termes de particules, hein, ça se comprend si vous vous souvenez que la particule médiatrice de l'interaction électromagnétique, c'est le photon, il a une masse nulle, et l'équivalent en gravitation, ça serait le graviton, et il a également une masse nulle, et donc même vitesse de propagation, la vitesse de la lumière.
Et pour revenir sur, avant de repasser aux objets, sur la physique de ces ondes gravitationnelles, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment elles décroissent éventuellement avec le temps ou avec la distance? On sait que les ondes électromagnétiques, elles décroissent comme l'inverse du carré de la distance. Qu'en est-il des ondes gravitationnelles?
Oui, alors en fait, Les ondes électromagnétiques, le champ électromagnétique lui-même décroît comme l'inverse de la distance, mais pour les sources d'ondes électromagnétiques qu'on observe typiquement, les fréquences varient extrêmement rapidement. Et du coup, on n'arrive pas à suivre l'amplitude du champ électromagnétique lui-même. Ce qu'on mesure finalement, c'est plutôt la valeur moyenne dans le temps du carré du champ électrique. Et donc la puissance en fait dans le champ électrique. Et ça décroît comme l'inverse du carré de la distance. Alors qu'avec les ondes gravitationnelles, comme on l'a vu, la fréquence peut être relativement faible, hein, quelques hertz ou quelques dizaines de hertz, c'est quelque chose, ou quelques kilohertz même, c'est quelque chose que l'électronique moderne peut suivre sans problème. Et du coup, on peut suivre l'évolution de l'amplitude de l'onde gravitationnelle elle-même, hein, et l'onde gravitationnelle décroît comme la distance à la source.
Ok, merci. Si maintenant on va un peu plus sur les questions sur les objets eux-mêmes qui sont détectés avec les ondes gravitationnelles, tu as dit notamment que quand tu as présenté les résultats, enfin ce qu'on en concluait de la première détection en 2015, c'était notamment que c'était la première détection directe d'un trou noir. Est-ce que tu peux un petit peu revenir là-dessus? En gros, est-ce qu'il y avait un doute sur l'existence des trous noirs? Et qu'est-ce que ça apporte d'avoir une détection directe?
Alors, bon, en science, on ne peut jamais être sûr de rien à 100%, évidemment, hein. Moi, vous m'auriez posé la question, est-ce que je crois en l'existence des trous noirs avant cet événement? J'aurais dit oui. Ceci étant, il s'agissait de preuves indirectes au sens où les trous noirs n'émettent pas de lumière. En fait, c'est presque la propriété qui les caractérise, hein. Ils sont littéralement invisibles de ce point de vue, mais si ils sont dans un couple stellaire avec une étoile compagnon, il peut y avoir un phénomène de cannibalisme stellaire, hein, de la matière de l'astre compagnon peut être arrachée par le champ gravitationnel intense du trou noir, former un disque d'accrétion. Cette matière va être chauffée au fur et à mesure qu'elle tombe vers le trou noir, émettre du rayonnement électromagnétique, particulièrement énergétique, près du trou noir, des rayons X détectés, c'est le système binaire X que j'ai mentionné à la fin de l'exposé, et on en connaissait un certain nombre, hein, qui fournissent autant de preuves indirectes de l'existence des trous noirs. Par ailleurs, il y avait aussi ces observations de trous noirs massifs au centre des galaxies, en particulier la nôtre, depuis la fin des années 90. Un certain nombre d'étoiles dont on pouvait observer le mouvement orbital déjà à l'époque. Semblait indiquer l'existence d'un astre particulièrement massif et compact, donc de l'ordre de 4 millions de masses solaires dans un espace tout petit. Et d'un point de vue astrophysique, on ne connaît rien d'autre qu'un trou noir massif pour expliquer ces observations. Donc c'était déjà extrêmement convaincant. Maintenant, ce qu'il y a de vraiment encore plus convaincant avec ces ondes gravitationnelles détectées en provenance de coupes de trous noirs, c'est que la théorie de la relativité générale nous permet vraiment de prédire à quoi doit ressembler l'onde gravitationnelle générée par le spiralement et la fusion de trous noirs. Et en comparant cette prédiction avec l'observation, on voit que ça marche parfaitement. Et on connaît absolument rien d'autre que deux trous noirs de 30 masses solaires chacun, ou plus précisément 29 et 36, pour expliquer cette onde gravitationnelle qui a été vue le 14 septembre 2015. Et puis ensuite tous les autres signaux, hein. Là je vous ai dit il y en avait 10 au cours des deux premières campagnes d'observation. Maintenant on peut dire qu'il y a plusieurs dizaines même de tels événements. Donc là c'est véritablement une prédiction caractéristique de la théorie de la relativité générale. Quand vous avez deux trous noirs en orbite avec certaines masses, ils émettent tel signal d'onde gravitationnelle, c'est exactement ce que vous voyez dans le détecteur. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue, la preuve la plus convaincante de l'existence des trous noirs. Et puis surtout, ce signal, en plus, vous le mesurez directement dans votre détecteur sur Terre, dont vous contrôlez le fonctionnement. Donc, c'est beaucoup plus convaincant que des observations, disons, plus indirectes.
D'accord,
Ceci
merci.
étant, d'un point de vue épistémologique, tout est toujours nécessairement indirect. Après, il y a quand même des choses qui sont moins indirectes, ou en tout cas qui nous donnent un degré de certitude et de confiance plus grand.
Alors, une autre question sur les trous noirs et sur leur détection. Là aussi, tu as un petit peu répondu déjà, mais tu peux peut-être revenir un peu là-dessus. Est-ce qu'on peut détecter un seul trou noir ou est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y en ait deux? Et s'il y avait un seul trou noir, quel type d'onde gravitationnelle serait émise et serait-elle détectable?
Alors, un seul trou noir, s'il est parfaitement isolé, hein, il va être à l'équilibre et il n'émettra aucun rayonnement gravitationnel. Donc, on ne pourra pas le détecter. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelque chose qui vienne l'embêter, qui vienne le perturber de façon à ce que sa forme soit modifiée au moins temporairement. Et là, effectivement, il va générer des ondes gravitationnelles jusqu'à réatteindre cet état d'équilibre. C'est ce qui se passe, par exemple, juste après la fusion de deux trous noirs. Il n'y a plus qu'un seul trou noir, mais il n'a pas atteint encore son état d'équilibre. Et donc, il va émettre une dernière bouffée de rayonnement qui vous est montrée ici à la toute fin. Les dernières oscillations, c'est en fait une somme de sinusoïdes atténuées exponentiellement. Ces dernières oscillations correspondent à la désexcitation radiative du trou noir final déformé jusqu'à ce qu'il atteigne cet état d'équilibre, après quoi il n'émettra plus d'onde gravitationnelle. Donc, si vraiment votre trou noir est isolé, qu'il n'y a rien qui vient le perturber, il n'y aura pas de signal. Après, vous pouvez peut-être imaginer d'autres mécanismes astrophysiques qu'un couple de trous noirs, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber le trou noir. S'il est tout seul, s'il est parfaitement isolé, il n'y aura pas de signal.
Et encore quelques questions, et puis on va s'arrêter. Les précisions qu'on a sur la mesure des masses des trous noirs, c'est quel ordre de grandeur ?
Ça dépend de la qualité du rapport signal sur bruit de chaque détection. Hein. Le premier signal avait un grand rapport signal sur bruit, je ne me souviens pas précisément, mais c'était plusieurs dizaines. Donc les précisions, c'était peut-être 29, plus ou moins 1 ou 2 masses solaires. Donc on ne parle pas du pourcent, du pour 1000 encore, mais ce n'est pas 29, plus ou moins 10 masses solaires. Mais pour des événements plus marginaux, plus difficiles à détecter, évidemment, les incertitudes sont plus grandes. Et puis, pour des événements qu'on observe mieux, les incertitudes sont plus petites, hein, comme toujours en science. Pour reparler un petit peu de Lisa qui verra donc les coalescences de trous noirs supermassifs, les rapports signal sur bruit seront considérables. Hein, ça sera plusieurs dizaines, centaines, milliers, voire exceptionnellement dizaines de milliers. Et là, avec de tels rapports signal sur bruit, vous pouvez faire des mesures extrêmement précises des masses des trous noirs qui ont fusionné. Mais ça, c'est pour le futur, ça sera en 2030.
Et aujourd'hui, alors, tu peux rappeler combien ont été détectés par onde gravitationnelle et combien en multimessager ?
Oui, alors, pendant les deux premières campagnes d'observation, donc en gros en 2015 et en 2017, il y a eu 10 couples de trous noirs qui sont montrés ici. Et un couple d'étoiles à neutrons, celui sur lequel je me suis attardé, qui sont représentés donc tous sur ce diagramme. Et puis il y a une troisième campagne d'observation entre avril 2019 et mars 2020, là, qui a donné lieu à de nouvelles observations, donc une nouvelle coalescence de deux étoiles à neutrons. Et puis également d'autres couples de trous noirs. Donc là, si vous comptez sur ce diagramme, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 couples de trous noirs. Mais en réalité, vous avez tout un tas d'autres événements qui vont être confirmés hein, dans les mois à venir comme étant des couples de trous noirs. Je vous avais montré ici le nombre de détections et d'événements qui n'ont pas été rétractés, donc qui sont vraisemblablement des détections de signaux d'origine astrophysique. Vous en avez eu en gros une soixantaine. La semaine dernière, il y a le deuxième catalogue de la collaboration scientifique LIGO-VIRGO qui a été mis en ligne, et je crois que c'était pour la première partie de la troisième campagne d'observation. Donc en gros, là, les 6 mois que je vous montre ici, et vous avez, je crois, quelque chose comme 30 nouveaux signaux. Donc, on parle maintenant de plusieurs dizaines de couples de trous noirs qui ont été observés et 2 couples d'étoiles à neutrons.
D'accord. Et peut-être pour terminer, une question qui est revenue quelques fois. En fait, ça va être des gens qui étaient impressionnés. Il y a de quoi par l'énorme quantité d'énergie, la violence du phénomène, la fusion de 2 trous noirs. Et oui. Ils se demandent, alors c'est la fin du monde. Alors, en fait, on peut se demander, si on fait un peu de science-fiction, imaginons qu'on est sur une planète, on vit sur une planète autour d'une étoile qui n'est pas très loin de ces 2 trous noirs qui fusionnent. Qu'est-ce qui se passe ? On a une idée ?
Eh bien, pas grand-chose, en fait. Alors, ce qui est remarquable, je vais revenir ici, ce qui est remarquable, effectivement, c'est que la puissance de l'événement, en particulier pendant les toutes dernières orbites et la fusion de 2 trous noirs de 30 masses solaires, par exemple, la puissance en termes d'émission d'ondes gravitationnelles, c'est plus que 50 fois la puissance cumulée en électromagnétique de toutes les étoiles, dans toutes les galaxies dans l'univers observable. Hein. Donc c'est peut-être l'événement le plus puissant dont l'humanité n'a jamais été témoin. Mais toute cette énergie part en très peu de temps, essentiellement en forme d'ondes gravitationnelles. Comme on l'a vu en optique, il ne se passe pas grand-chose. C'est en onde gravitationnelle. Et dès lors que vous êtes à quelques, mettons, dizaines de fois la taille caractéristique des trous noirs en question, en termes de distance, lorsque l'onde gravitationnelle émise va vous traverser, vous allez effectivement sentir quelque chose, hein, a priori, si vous êtes suffisamment près, puisqu'il va y avoir un champ de marée oscillatoire qui se propage, c'est ça, une onde gravitationnelle, c'est un champ de marée oscillatoire propagatif. Et donc, vous allez avoir des variations relatives de longueur qui vont avoir lieu au sein de votre corps. Ça va créer de la tension, disons. Mais dès lors que vous êtes voilà, à une distance raisonnable, ça va déjà être très atténué et ça ne sera pas dangereux. Donc, si vous parlez carrément là, d'une planète en orbite autour d'un, je sais pas moi, d'une étoile qui elle-même est relativement près du couple de trous noirs, a priori, ça sera juste plus facile pour détecter l'onde gravitationnelle, mais c'est pas dangereux, c'est pas la fin du monde. Une supernova, pas très loin, ça c'est la fin du monde.
D'accord, ben merci pour toute cette conférence et toutes ces réponses. Je propose qu'on s'arrête là. Vous avez été très nombreux à nous suivre, donc merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Je vous rappelle que cette conférence, vous pourrez la retrouver sur notre site web, elle a été enregistrée et donc elle sera, vous pourrez la revoir de nouveau. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils ont pris en cours et ils avaient du mal à suivre, donc vous pouvez reprendre depuis le début dès que cette vidéo sera mise en ligne. Je vous rappelle que notre prochaine conférence sera le 1er décembre prochain, de nouveau à 19h30 et de nouveau sur YouTube. Il y a extrêmement peu de chances, malheureusement, qu'on puisse réaccueillir du public dès le 1er décembre prochain. Donc, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.